Dans ce que tu m'as dit là, il y a quelque chose qui m'a marqué quand tu disais ah oui, peut-être que c'est bien le fils de son père. En fait, je pense que c'est pas ça qu'il y a derrière.
Okay.
C'est plus peut-être que c'est lui le projet complexe qui va t'occuper dans 10 ans. C'est plus cette peur-là de se retrouver dans 10 ans à dire bah, en fait tout roule, tout va bien, tout le monde est parfait, et en fait c'est plus à me dire ah ouais, peut-être que c'est en lui que je vais trouver ce challenge futur que aujourd'hui j'ai le stress de peut-être ne pas avoir.
Ah ouais?
Ouais.
Ah ouais, t'as
Ouais,
pas
mais c'est ça,
t'as pas envie que tout roule.
quand je te dis bon, que j'ai un rapport à la complexité, en fait moi je quand c'est simple, je m'ennuie, et quand je m'ennuie, ça m'intéresse pas.
Exécuté par qui?
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour le faire causer de son expérience de la paternité. Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation, sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 euros par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode, merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préférée, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcasts ou Spotify. Et surtout, 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 partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez c'est des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Salut Étienne, bienvenue.
Salut.
Ça va?
Ouais, toi?
Ouais, bah oui, écoute, super. Tu me disais que t'étais un peu tendu comme avant un rencard, c'est
ouais.
Ça?
Ouais.
Ce matin, je me suis préparé et je me sentais stressé. Donc, j'ai réfléchi et je me suis dit, ouais, c'est comme avant un rencard, mais pas un rencard avec toi, un rencard avec tous les auditeurs et surtout ceux que je peux connaître. J'ai peur de raconter quelque chose qui passe mal ou, tu vois, de donner ma vision des choses et que ma compagne se dise, oh, bah non, ça s'est pas passé comme ça ou genre de choses. Mais bon, ça va.
Ah. Tu sais, il n'y a pas de vérité.
Oui, oui.
On a chacun sa vérité. Et effectivement, peut-être qu'elle pensera comme ça, mais ça pourrait être l'objet d'une, peut-être d'une discussion intéressante.
Oui, bien sûr.
T'appréhendes un peu que ta femme l'écoute
Non, ça va.
Ok. T'as l'impression de venir déposer un truc qui est difficile pour toi à déposer?
Non, plutôt pas.
Ok.
Non.
J'avais l'impression dans ton mail, tu vois, que tu m'as envoyé, qui était un peu je suis pas très à l'aise avec le fait de dire ce que je suis en train de te dire.
Ouais, je comprends. On va y revenir, mais il y a aussi le fait que le mail, je te l'ai envoyé, ça fait déjà plusieurs mois. Donc en fait, c'est des thématiques sur lesquelles j'ai pas mal avancé,
t'as avancé
dans ces derniers mois.
Bravo.
Donc non, je suis plutôt en paix.
Ok.
Avec tout ça.
Ok. En tout cas, aujourd'hui, tu l'es.
Oui.
C'était pas forcément le cas il y a encore quelques mois, c'était plus complexe.
Oui.
Ok. Donc Étienne, alors je sais même plus quel âge tu as. Tu as
30 ans.
30 ans, tout juste. Donc t'as deux enfants.
Oui.
Et tu m'as envoyé un mail. Attends, je vais retrouver l'intitulé de ton mail parce qu'il est marrant. Papa HPI, mon rapport à la complexité, à la différence d'âge entre mes enfants, me pose déjà des questions.
Oui.
La parentalité, c'est que des questions tout le
Bien
temps.
Sûr.
Non, j'imagine
ouais,
que
oui.
ça doit turbiner quoi.
Oui, oui. Ouais, c'est sûr. Ce que je t'ai dit un peu dans le mail, moi j'ai été, alors c'est le bon terme, en général on dit pas diagnostiqué, on dit plutôt détecté HPI, parce que c'est pas une maladie, c'est une façon de fonctionner. Mmh. Et donc à 12 ans, et c'est une information que j'ai pas vraiment intégrée avant, enfin en grandissant, je le savais, mais je me suis pas construit par rapport à ça. Et je l'ai un peu redécouvert il y a quelques mois.
Il n'y avait pas, t'avais pas l'étiquette enfant HPI et
voilà, j'ai pas...
tes parents utilisaient cette étiquette pour expliquer un petit peu ton comportement par rapport au monde, etc.
Si,
etc.
ça a pu expliquer un petit peu certains décalages que j'ai eu pendant l'enfance, mais pour autant ça a jamais été une étiquette dans laquelle je me suis enfermé. Je me suis jamais dit je sais pas, je vais avoir une incapacité sociale à pouvoir évoluer, etc. Et en fait là où à l'adolescence j'avais un gros décalage social, et ben finalement au début de la majorité, etc., j'ai réussi à me construire aussi socialement et à être à l'aise avec tout ça.
C'était plus un mode d'emploi pour toi, c'est ça? Une grille de lecture de comment tu fonctionnes ou...
Non, parce que finalement, je me suis construit sans prendre ça en compte.
Okay.
C'est ce que je voulais plus dire dans le fait de ne pas s'enfermer. C'est le fait justement qu'en prenant ça en compte de façon trop forte, finalement, on peut s'empêcher d'évoluer. Et on peut se dire, en fait, bah oui, j'ai cette difficulté-là et puis je vais la garder toute ma vie. Alors qu'en ne restant pas dans... en ne m'enfermant pas dans ce schéma, finalement, je me suis construit naturellement sans... me mettre des limites.
Ok. T'as deux enfants ?
Oui.
Une petite fille, un petit garçon ?
C'est ça.
Donc ta fille est l'aînée ?
Oui.
L'un des trucs que tu me disais dans ton mail, c'est que t'avais du mal aujourd'hui à créer une relation avec ton fils. En tout cas, c'était à l'époque, c'était il y a pas longtemps, c'était il y a 6 mois, non, c'est ça, si je me trompe pas ?
Il y a un peu moins, vu que mon fils a 7 mois, okay. Et qu'il était déjà né. Mais...
Octobre 2023.
Octobre 2023, il est né en juillet.
Ok. Et en fait, tu me disais que c'était complexe pour toi, que tu avais déjà peur en fait de ne pas réussir à créer une connexion avec ton fils.
Ouais, en fait, c'est pas tellement d'avoir peur de créer la connexion avec mon fils, parce que ça, je sais que je vais l'avoir, mais je vois bien que j'investis beaucoup plus de temps mental, entre guillemets, avec ma fille. Et je sais que de toute façon avec mon fils ça va être entre guillemets pareil, plus il va grandir, plus ça va m'intéresser, plus je vais y investir du temps, mais pour autant quand mon fils aura 3 ans finalement ma fille en aura 6
et ils ont 3 ans d'écart
Ils ont 3 ans d'écart et donc forcément un enfant de 6 ans m'intéressera a priori plus qu'un enfant de 3 ans et donc j'ai un peu peur de traîner ce décalage là pendant assez longtemps. Je vois bien que ça va forcément disparaître avec le temps, puisque un enfant de 12 ans et un enfant de 15 ans, on va être dans le même ordre de grandeur de complexité au niveau des échanges.
Enfin, pas si sûr.
Ouais, c'est pas les mêmes problèmes. Mais
tu auras une fille de 15 ans et un garçon de 12 ans. Donc, si tu veux, la fille de 15 ans, elle sera peut-être là, papa, ça dégage, vraiment.
Oui, oui. Mais du coup, voilà, je me pose des questions par rapport à tout ça.
Ok.
Et après, par rapport à... au mail que je t'ai envoyé, les choses ont un peu évolué de mon côté, notamment quand j'ai fait le rendez-vous pédiatre des 6 mois. Où, alors pour ma fille, les rendez-vous pédiatres, je les avais tous faits. On y allait à deux, etc. On avait du temps. Après, quand t'as deux enfants, c'est plus compliqué, il faut s'organiser. Et j'avais assez peu été voir le pédiatre avec mon fils, et à 6 mois, c'est moi qui suis allé. Et c'est vrai que la pédiatre, juste sur quelques petits gestes de passer un objet d'une main à l'autre, de suivre le regard et tout. Elle a fait une remarque sur le fait que il était plutôt en avance, enfin ou en tout cas vraiment pas en retard. Et ça a déclenché quelque chose chez moi. À ce moment-là, je me suis dit ah ouais mais ok. Enfin il y avait une fierté et c'est pas la création d'un amour parce que l'amour il est là depuis le début, mais j'ai pendant 48 heures j'étais sur un peu petit nuage et je l'ai regardé très différemment. Je me suis beaucoup occupé pendant les 48 heures qu'on suivit et je me suis dit tiens c'est marrant, ça je le note et on va en parler ensemble.
Ok. Waouh, c'est incroyable quand même hein. On va parler de ton désir de paternité.
Ouais.
Comment il est venu, comment est-il arrivé?
Il est venu avec le couple. Je suis quelqu'un qui me projette beaucoup et avant d'être en couple, finalement, j'avais pas spécialement le désir de paternité. J'avais le désir de fonder un couple. Une fois que j'ai rencontré ma compagne et qu'on s'est installé, c'est venu assez vite. Et c'est des fois quand j'y réfléchis, je me dis c'est peut-être plus la crainte de me retrouver plus âgé sans enfant et de ressentir un vide qui m'a poussé à en vouloir aujourd'hui.
Ah ouais, genre vieux.
Je sais pas.
70, 80 ans
peut-être un peu moins, même 50, 60, à se dire en fait j'arrive dans entre guillemets, la deuxième phase de ma vie et finalement, peur d'avoir une quête de sens à ce moment-là. Là okay. où, quand t'as des enfants, bah voilà, il y a tout un tas de transmissions, etc., qui sont en œuvre. Oui, ça peut jouer.
Il y a d'autres quêtes de sens.
Oui.
Ok. Ah oui, c'était pour ça.
Il y a ça. Et ensuite, il y a le couple, le fait que ma compagne en souhaite aussi. C'est une sorte d'accomplissement. Et oui, c'est.
Ok.
Après, il y a tout l'aspect. Ça rejoint un petit peu ce que je disais sur la quête de sens plus tard, mais même à plus court terme. C'est un projet d'une grande complexité. Et il y a tout ça qui m'intéressait aussi.
Tu veux dire intellectuel ?
Oui, intellectuel, d'éducation, et même d'organisation pour le couple, etc. En fait, le schéma de la vie sans enfant me faisait plutôt peur.
Ok.
Le côté de se dire, ok, on a de bonnes situations, on fait deux voyages par an, le reste du temps, on le passe au travail ou à la maison, avoir deux, trois activités, etc. Ça, j'ai trouvé ça super, mais super quelques années. Ensuite, j'ai eu envie d'autre chose, envie de pimenter la vie, entre guillemets, de relever des challenges au quotidien.
Ok. Et t'as la sensation que de ce fait, faire des enfants allait créer des challenges dans votre vie?
Ah oui.
C'était un truc où tu te disais, ok, ça va pimenter un peu la vie.
Pimenter, c'est pas le bon truc. Mais oui, totalement. Totalement. Pour moi, ça amène tout un tas de petits projets à gérer, d'organisation, de... Mais même, je sais pas, maintenant, il y a des activités qu'on fait, qu'on apprécie avec un regard d'adulte, et quand t'as pas d'enfant, tu les fais pas. Aller dans au zoo, finalement, on y a été petit, avec nos yeux d'enfant, et on y retourne aujourd'hui, pour nos enfants, mais aussi pour nous. Aujourd'hui, okay. Je sais pas, tu vois des choses sur les animaux que tu vois pas quand t'es petit. Tu dis, tiens, je sais pas, la chèvre, elle a des petites boules là, tiens, c'est pourquoi. Enfin, et du coup, tout un tas d'activités comme ça que tu fais pas forcément quand t'es un couple sans enfant. Pas parce que tu te limites, mais parce que finalement, t'as pas forcément l'idée. Et ben, j'apprécie de les faire aujourd'hui.
Moi, l'un des trucs que j'ai découvert, c'est de pouvoir rejouer dans les jeux d'enfants sous prétexte que t'as des mômes.
Ouais.
Pouvoir aller dans les toboggans et tout.
Les trampolines.
Les trampolines, bien sûr. Oh là là, quelle vie. Ok. Ça fait partie des trucs, en tout cas, qui te nourrissent, toi, aujourd'hui, de pouvoir revivre ces moments-là, finalement, mais avec un œil d'adulte, quoi.
Ouais.
Voilà, d'aller au cinéma, enfin, tes petits sont encore petits, mais d'aller au cinéma voir les dessins animés sous prétexte que t'as des enfants.
Mais bien d'accord.
Ok, et comment ça s'est passé l'annonce pour toi de la naissance de ta fille, en tout cas de la grossesse
Ah, ça va être marrant. En fait, donc j'écoute tes podcasts et on les écoute pas forcément quand ils sortent. En général, on profite des grands trajets en voiture pour les écouter ensemble. Et puis, de temps en temps, on met pause, on s'avoue la discussion. Et il y a pas longtemps, on en a écouté un où le père a dit que c'est lui qui avait annoncé la grossesse à sa femme. Et c'est mon cas aussi. En fait, j'ai senti des changements corporel, on va dire, notamment en termes de taille de bonnet de ma compagne. Et je me suis dit, oh bah là, il y a quelque chose, quoi. Et elle disait non, je pense pas et tout ça. Donc au bout de quelques jours, je dis, bah si, je pense qu'il y a quelque chose. Et donc, ce qui est encore plus drôle, c'est que c'est moi qui ai fait le test. C'est-à-dire, elle était vraiment pas à l'aise avec l'idée de faire le test. Donc, elle a pris un bol dans la douche, quoi. Elle a uriné dedans et c'est moi qui ai trempé le test dedans et qui ai vu en premier.
Mais incroyable.
Et donc, c'est moi qui suis allé la voir avec le test avec les deux barres en disant, bah regarde, j'avais raison, quoi.
Mais pourquoi elle était pas à l'aise avec le... C'est étonnant.
Je sais pas.
Tu sais pas?
Je sais pas du tout. Ouais, je pense que c'est un petit un déni ou j'en sais rien. Mais...
Ah ouais. Ou alors.
Elle y croyait vraiment pas, quoi, sur le moment.
Et donc ça lui a fait... Elle était heureuse
ou... Oui.
Oui, c'était un vrai projet de votre part à ce moment-là.
Okay. C'est plus... d'ailleurs, t'en parles souvent, on a été surpris par la rapidité. En fait, moi j'avais ce côté de me dire, oh là là, ça peut être une galère si jamais ça marche pas, les parcours PMA, etc.
Ouais.
Et comme j'avais, n'empêche, ce vrai désir qui était fort, ma compagne aussi, mais finalement elle était peut-être un peu moins stressée par les difficultés que ça pourrait causer. Et donc, on a décidé d'essayer à partir du moment où on se disait, si ça arrive maintenant, c'est pas un drame, et de toute façon, on n'est jamais vraiment prêt.
Oui.
Donc, allons-y, quoi. Et en fait, c'est arrivé très très vite, quoi.
Mais ça peut être un vrai piège aussi, cette histoire de... Ok, on nous explique beaucoup que ça peut être long, que ça peut mettre du temps, etc. Et je trouve que c'est hyper important psychologiquement de se mettre aussi dans cette posture-là. Mais ouais, effectivement, tu peux aussi tomber enceinte en 15 jours, quoi. Donc, faut aussi être prêt.
Quand ah ouais, c'est ça.
Que ça peut arriver, genre, bientôt, très bientôt.
Ouais, ouais, et puis...
Elle était un peu là-dedans, tu crois ? Vous en avez reparlé ?
Je pense que c'est plus moi qui étais là-dedans.
Okay.
C'est plus moi à la limite qui ai lancé les discussions pour qu'on se dise allez c'est le moment d'arrêter la contraception et d'essayer.
T'étais moteur.
Oui.
Ok. D'où le fait qu'elle ait pissé dans son bol. C'est vraiment 150 enfin plus 180 épisodes là je crois. Première fois que j'entends ça. Incroyable. Ok. Comment s'est passée la grossesse pour toi ?
Très bien.
Ouais.
Forcément du stress qui amène chez moi de la motivation à m'enseigner, lire des livres, regarder, écouter des podcasts en faisant des travaux pour préparer la maison, etc. Mmh. Et puis, non, ça s'est très bien passé. Pour ma femme, ça s'est très bien passé aussi. Voilà.
Ok. Rien de plus.
Rien de plus, bah, pas mal de projets. On a acheté une maison pendant la grossesse, c'était le confinement. Donc voilà, il y a eu quelques...
Oh oui.
Quelques comment dire, particularités. On va dire. Mais non, ça s'est très bien passé.
Ok. Comment s'est passé l'accouchement pour toi ?
Très bien. Très bien. Je suis pas très à l'aise avec l'aspect médical de tout ça, comme beaucoup de papas.
Ouais.
Et non, ça s'est super bien passé.
Tu avais fait la préparation, etc. Enfin, t'avais pris ce temps-là ?
Ouais. Ouais. D'ailleurs, ma femme en rigole encore. On a fait la préparation pendant le Covid et on a des amis qui habitent à côté qui avaient une grossesse en fait à quelques semaines d'écart. Et donc, malgré le Covid, il y a une sage-femme qui a accepté qu'on fasse les cours ensemble. Et ils rigolent souvent de moi parce qu'à l'époque, je confondais la poche des os et le placenta. Je crois que c'était la même chose. Mmh. En fait, tu vois sûrement ça au collège en SVT, mais c'est loin. Et donc quand on faisait les schémas sur le paperboard, c'était marrant. On en rigole encore.
Ok. Et l'accouchement, c'était cool ?
Ouais.
Comment s'est passée la rencontre avec ta fille ?
Bah, très bien. L'accouchement, très bien passé. On a eu un moment de peau à peau assez classique dans la salle d'accouchement, qui fait du bien. Par contre, ensuite, Covid. Donc en termes d'accès, enfin de visite, à la maternité, c'était quand même assez limité. Ça devait être 14h, 18h tous les jours. Donc en fait, ça s'est très bien passé. Mais au bout de 3 jours, finalement, ma femme avait passé 72 heures avec notre fille. Et moi, 3 fois 4 heures. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, j'ai ressenti un peu ce décalage-là, quoi, du fait d'être à l'aise pour s'en occuper quand ils sont tout, tout petits, etc. Mais ça a duré que quelques jours. Et,
ok. T'as réussi à récupérer le train en route parce que c'est...
Ouais, très vite, ouais.
Pour moi, c'est vraiment des signaux d'alerte dont il faut avoir conscience très vite, quoi. C'est que tu peux justement laisser partir le train en te disant « Waouh, je suis largué !» Et en fait, d'avoir la sensation d'être largué et donc de finalement peut-être aussi te désinvestir au bout d'un moment, quoi.
Non, mais ça
peut être un vrai piège.
Je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas du tout mon cas.
Ok. Parce que tu me disais, dans ton mail, tu me disais que tu avais un peu de mal avec l'aspect poupon.
Ouais.
Et qu'il y avait un vrai côté, en fait, finalement, ta fille te stimule intellectuellement, en tout cas, vient te chercher peut-être intellectuellement un peu plus que ton fiston à l'heure actuelle, en tout cas. Et ça s'est passé un peu de cette même façon-là pour ta fille ?
Non, c'est différent pour le premier, parce que...
Il y a la découverte.
Ouais, il y a la découverte, t'as tout un tas de choix à faire, un tas de choses à caler en couple... Mais des fois, c'est des détails, rien que sur... On n'était pas d'accord sur la marque de couche qu'il faut choisir, etc. Et donc, bah, tout ça t'amène quand même de la complexité à gérer que t'as pas pour le deuxième. Finalement, le premier, comme je te disais, un peu de travaux à faire à la maison, tu dois gérer tout un tas de choses, qui pour le deuxième, finalement, sont devenus des automatismes. Mmh. Et donc, t'as entre guillemets, enfin, c'est pas le même type de challenge. Le deuxième, c'est plus vraiment réussir à équilibrer la charge et à s'en sortir. Mais le premier, il y a vraiment tout un tas de choses qui sont nouvelles, sur lesquelles c'est intéressant de s'enseigner. et c'est vrai.
Il y a la curiosité, c'est ça qui vient jouer à ce moment-là.
Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que finalement, par contre, le challenge d'éducation, qui est pendant la première année, qui est pas vraiment là, quoi. J'ai un collègue qui m'avait dit ça quand j'attendais mon premier enfant. Il m'avait dit, tu verras, la première année, c'est un peu comme un jeu vidéo, quoi. Il y a la barre de sommeil, la barre de changer la couche, et puis la barre de manger. Et puis, faut juste réussir à faire en sorte que les barres soient suffisamment hautes tout le temps. Et...
C'est un Tamagotchi, quoi.
Oui, voilà. Donc, wow. C'est extrêmement simplifié. Mais par rapport à l'aspect éducatif qu'on trouve après, c'est vrai que la simplification, elle peut s'entendre.
Comment ça se joue pour toi d'un point de vue émotionnel? Parce que pour l'instant, là, tout ce que tu me racontes, il y a un côté très pragmatique.
Ouais.
On ne l'a pas signalé, mais tu m'as dit que tu es ingénieur, en cybersécurité. Donc ouais. J'imagine que tu aimes bien les tableaux Excel et les plannings, etc., sans vouloir caricaturer.
Oui, ça va.
comment ça se passe émotionnellement avec ta fille pendant cette première année, justement? Où je comprends qu'il y ait moins l'aspect peut-être intellectuel, tu viens le compenser par autre chose?
C'est une question difficile. Le rapport aux émotions, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler. Et je suis, c'est vrai, quelqu'un qui me suis construit de façon assez cartésienne. Et alors peut-être que dans le fond, c'est l'inverse, je suis peut-être hyper émotif. Bien que c'est une grande question. En ce moment, je pense que je suis plutôt hyper susceptible que hyper émotif.
Mais, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que...
Ça n'a rien à voir, hein, la susceptibilité.
Ça n'a rien à voir, mais finalement, ce qu'on appelle hypersensibilité, en général, moi, je le sépare en trois parties. Tu as l'hypersensibilité en termes de sens, c'est-à-dire que tu es sensible aux lumières, aux sons, aux odeurs. Donc ça, c'est ce qu'on considère que je le suis. Tu as hyper-émotif, donc c'est-à-dire tu vis tes émotions très fortes, elles te débordent, entre guillemets, régulièrement, ce que je ressens pas forcément. Et par contre, j'ajoute l'hyper-susceptibilité, c'est-à-dire je passe mon temps inconsciemment à me demander, quand quelqu'un fait une remarque, si elle s'applique à moi parce qu'il manque quelque chose. Exemple, j'ai eu ma mère au téléphone il y a deux jours, et puis à la fin, elle me dit fais bien un gros bisou à ta sœur et à ta fille. Et je dis ok, ouais, et puis moi, quoi. Tu vois, et en fait, j'avais posé des questions sur ce côté-là. Est-ce qu'elle me trouvait justement hyper susceptible depuis tout petit, et ce genre de choses? Et à ce moment-là, elle m'a dit oui, t'es vraiment très très susceptible. Parce qu'en fait, dans ce message-là, qui était juste tu passeras bien le bonjour aux gens avec qui tu es, moi j'entends et je te fais pas un gros bisou
pas à toi.
Et donc, voilà.
En même temps, t'as raison de réclamer un gros bisou de la part de ta mère.
Non, mais il était...
Pour moi, c'est pas de la susceptibilité à ce moment-là.
Ouais, mais il était...
C'est plutôt une demande. Qui n'est pas formulé.
Oui, mais il était sous-entendu. On avait discuté 10 minutes avant, enfin voilà. Mais c'est une constante dans ma vie.
Je t'aime et gros bisous, c'est important de le nommer, quoi, tu vois.
Ça arrive régulièrement qu'elle le dise.
Ok. moi, je ne trouve pas ça susceptible, au contraire. Pour moi, il y a un côté... en fait, je comprends que tu as envie de te dire, moi aussi, en fait, j'ai envie que... Enfin, tu vois, tu peux le demander. Ce n'est pas de la susceptibilité pour moi.
Oui, mais c'est un exemple parmi beaucoup d'autres.
Ok. ok. Et donc,
le rapport aux émotions, ouais. C'est des choses sur lesquelles je me questionne. Aujourd'hui, je suis plutôt à me dire que je suis finalement peu... Enfin, quelqu'un de peu émotif, bien que ça m'arrive, notamment... Tu posais la question de la rencontre avec ma fille. C'est vrai que ça, c'est un des moments où je me suis senti le plus ému dans ma vie.
Ça s'est passé comment?
Je te disais, l'accouchement qui se passe très bien, le moment de peau à peau.
Tu le vis comment, l'émotion à ce moment-là?
Au moment de la naissance, je le vis en entendant les infirmières qui disent « Asseyez-vous, monsieur !»
Oui, t'es sur le point de tomber dans les vapes tellement
ouais,
c'est...
Un petit peu.
Okay.
Un petit peu. Et c'était d'ailleurs rigolo parce que finalement, il y a ma femme qui est en train de vivre... quelque chose de médical aussi, de plus fort, et d'entendre les infirmières qui disent « on a besoin d'aide pour le papa », finalement, moi, ça m'a fait exploser de rire et ça m'a fait tenir.
Ça les fait chier aussi, hein, le personnel médical. Moi aussi, j'étais sur le point de tomber les vapes, et les meufs m'ont dit « monsieur, on n'a pas le temps de s'occuper de vous, allez vous asseoir, reparez-vous, quoi ».
Nous, on a eu de la chance, en fait, on était le seul accouchement, je crois, à ce moment-là, donc on avait du monde.
Non, parce que moi, l'un des trucs que j'ai découvert, et je crois que... À 30 piges, j'étais un peu dans le, on va dire, finalement, dans le même état que toi, quoi. C'est-à-dire que je crois qu'il y a, plein de choses à 30 piges que je bloquais. Parce que c'était vachement plus simple de les bloquer. D'ailleurs, tu dis, t'es en train de travailler dessus, je sais pas comment tu travailles dessus. Moi, ma psy avait utilisé une image assez géniale. Elle m'avait dit, en fait, t'as passé toute ta vie à ériger une sorte d'immense digue pour faire en sorte que les émotions, elles te submergent pas la gueule. Et là, en fait, alors, à l'époque, j'étais vraiment dans le mal. Elle m'a dit, en fait, cette digue, elle vient de sauter. Et en fait, elle dit, toute ta life, t'étais en train de colmater les petits trous pour faire en sorte que ça déborde pas et tout. Et là, bah, la digue, elle a sauté, quoi. Et j'étais, ah ouais, putain, c'est quand même une super image, quoi. Et c'est vrai que j'avais vraiment la sensation de... En tout cas, à l'époque, je le ressentais pas, mais aujourd'hui, je vois très bien comment je fonctionnais avec le recul, tu vois. Et je me dis, waouh, j'étais vraiment dans un... En fait, c'était trop... J'étais convaincu que ça allait être trop, et je le vois aujourd'hui, parfois c'est beaucoup trop. Mais trop, ça veut rien dire.
Trop, c'est trop, juste qu'il suit. Quand tu dis trop, tu veux dire que la digue était trop, ou que justement, quand il n'y a pas la digue, les émotions sont trop fortes?
Quand la digue a sauté, et maintenant il n'y en a plus, en fait, au départ, tu peux te sentir submergé et perturbé par « Ok, en fait, j'ai autant d'émotions que ça ». Alors que toute ta vie, t'as fait en sorte de les éloigner le plus possible.
Oui.
Et c'est très perturbant et c'est très étonnant, tu vois, ça fait vraiment comme si tu te prenais une vague dans la gueule, quoi, tu vois.
Là,
c'est pas très agréable. Et en même temps, quand tu comprends que juste, bah, t'es comme ça et que, en tout cas, moi, j'ai compris que j'étais comme ça. Je me suis dit, OK, donc, c'est juste moi. Ça fait, en fait, juste 35 piges que, je vis un peu à côté de ça et que j'ai tout fait pour faire en sorte de ne pas les vivre, bah ok, on va faire en sorte de vivre avec.
Et donc, si quelqu'un t'avait posé la question à 30 ans de ton rapport aux émotions, t'aurais répondu un petit peu comme moi, où t'avais l'impression d'être finalement pas ton sujet à,
oui.
À ça.
Okay, je comprends. C'est pour ça que ça me parle pas mal quand je t'entends parler, tu dis « je suis pas sûr d'en avoir, je suis sûr que t'en as plein ».
Non, mais c'est sûr. En fait, quand je réfléchis à tout ça, il y a un concept psy qui s'appelle le faux self, je sais pas si ça te parle.
Ouais.
Où l'idée, c'est de dire que t'as ton enfant intérieur qui est entre guillemets le vrai self qui veut interagir d'une certaine façon. Et ensuite, t'as les normes de la société. Et les normes de la société, t'as certains comportements que l'enfant en toi, il a envie d'avoir, qu'il ne les accepte pas. Et donc, tu te construis un petit peu des tas de petites règles, de dire est-ce que je mets un filtre là-dessus quand je suis dans tel environnement, est-ce que je fais cette blague beauf ou je la fais pas? Et en fait, si t'arrives à... Enfin, donc ça, c'est un mécanisme qui a lieu chez tout le monde. Et chez certaines personnes, tu finis par te construire... moi, j'appelle ça plutôt un château. Toi, c'est ta digue. Où en fait, tu te censures tellement que tu ne t'écoutes plus toi-même. Et donc, ben voilà, je suis en train de...
Et finalement, peut-être que quand t'es en train de dire à ta mère « Eh ben, moi », en fait, t'es juste... Il y a ton enfant intérieur qui est juste en train de dire « Eh, maman !» Si j'ai besoin que tu me fasses un bisou, quoi.
Bah, oui.
En tout cas, ça me paraîtrait pas complètement déconnant. Quoi.
Oui, il y a de ça.
Je suis pas psy, hein, mais bon, c'est de mon expérience perso, quoi, tu vois. Et c'est marrant que tu parles de faux self, parce que pour moi, tu parles de château, de digue, etc. Y a un autre truc aussi que je trouve hyper intéressant, c'est le masque. C'est-à-dire que tu mets, t'as un masque, quoi, tu vois, et tu mets le masque... d'Étienne qui lui va bien, qui gère, qu'il a aucun problème, et que voilà, tout va bien, quoi.
Oui, c'est vrai. Et le masque n'est pas le même au travail, en famille, entre amis. C'est un masque différent, mais il y a toujours cet aspect-là de je ne sais pas si c'est de devoir afficher que tout va bien, mais en tout cas de l'afficher et de ne pas avoir envie de mettre un masque qui montre que potentiellement, des fois, ça ne va pas.
Ok. Et dans ton mail, je sais pas, parce que moi j'ai senti vraiment un vrai besoin, tu vois, de venir parler de cette inquiétude, j'ai envie d'avoir, ce que tu disais, j'ai envie d'avoir de pas faire de différence en fait entre mes enfants.
Oui.
C'était ça en fait le fond.
Alors c'est pas tellement de pas faire de différence, c'est plus j'ai envie de leur apporter à tous les deux ce dont ils ont besoin. Et j'ai peur de finalement, de ne pas réussir à investir l'énergie nécessaire à ce que mon fils aille pour le mieux. Enfin, c'est un peu fort les mots là, c'est pas vraiment ce que j'ai en tête. Mais.
T'es sûr que c'est pas ce que t'as en tête ou c'est ce que ton masque il te dit que.
non, je pense que. Okay. Non. Non, je pense que j'ai du mal à mettre des mots sur l'idée et que les mots qui sortent, c'est ceux-là, mais ils peuvent être interprétés d'une façon qui correspond pas à la réalité.
Interprété par les autres?
Oui.
Ok. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, tu vois.
Oui, oui.
On s'en fout des autres.
J'essaie, hein,
si je puis me permettre. Et je la comprends, cette peur.
En fait, ce que je te disais dans le mail, finalement, et ce qu'il y a derrière ça, ça touche à plus à des questions de sécurité affective.
Ok.
En fait, tout ce qui est derrière logistique, etc., il n'y a pas de. J'ai pas d'inquiétude là-dessus que derrière, je mettrai le même en train à accompagner mon fils au judo s'il a envie de faire du judo ou que je me fais aujourd'hui pour accompagner ma fille à la gym. C'est plus le fait de se sentir avec un lien fort émotionnel justement avec ses parents. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je sens avec ma fille et que je sentais quand ma fille avait 6 mois, justement parce que bah, il y a tout un tas de nouveautés, tout un tas d'intérêts. C'est entre guillemets avec ton premier enfant, t'as un enfant, mais en plus tu deviens père, donc il y a tout ça à intégrer. Avec ton deuxième enfant, et ben finalement t'es déjà père. Et donc, il y a ce lien-là qui est moins fort, entre guillemets. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et donc, voilà, c'est les questions que je me pose sont en rapport avec ça. Est-ce que, finalement, un enfant dès 6 mois sent ce genre de choses? Est-ce que la différence va durer jusqu'à ce qu'ils aient 12 et 15 ans ou 3 et 6 tu vois, c'est un peu ces questions-là que je me pose aujourd'hui.
45 et 48.
Ou 45 et 48.
Ça peut durer.
Oui, ou même, enfin, et même peut-être que les choses vont s'inverser dans le temps. Peut-être que à 7 et 10 ans, je sentirai un lien affectif plus fort avec mon fils qu'avec ma fille. Et dans ce cas-là, je me poserai la question de l'impact que ça peut avoir sur ma fille et de comment mettre en place des choses pour équilibrer la situation.
Ok. T'as besoin de te projeter comme ça beaucoup?
Ouais.
Ouais.
Ouais, tout le temps.
Et ok.
J'en discutais avec la psy cette semaine et justement je lui disais je vis dans le passé. Pardon. Je vis dans le futur. Et en fait très souvent dès que je veux m'échapper du présent je vais dans le futur. J'organise des choses, je programme, j'anticipe, je vérifie.
Ouais.
Donc voilà, ça fait partie du travail aussi à essayer de
revenir dans le moment.
Revenir dans le moment. Et il y a quelques jours, on m'a dit, on m'a donné une expression, et en fait, j'ai compris d'une façon originale, on m'a dit, derrière ça, il y a le fait de se laisser faire. Et en fait, en général, quand on parle de se laisser faire, on parle de se laisser faire par les autres. Mmh. Et moi, quand j'entends ça, j'entends, fais-toi confiance dans le futur. Laisse-toi faire plus tard. Tu sauras résoudre les problèmes. T'as pas besoin de tout anticiper, et puis c'est pas grave si tu échoues.
Ok.
Là où aujourd'hui, en fait, moi, je suis quelqu'un de dur avec moi-même. Quand il y a une situation qui se passe pas bien, je vais toujours chercher ce que j'aurais pu faire de différent pour que ça se passe mieux, etc. Et donc, je pense que je vis dans le futur pour éviter d'arriver dans ces situations difficiles.
T'anticipes
où je
un
me
maximum.
Culpabilise, etc. Derrière.
T'anticipes un maximum les scénarios, mais. Ouais. Ok. Donc, ta fille a 3 ans, mais pour moi, s'il y a bien un truc que j'ai appris de la parentalité, c'est que tu sais jamais, en fait. C'est que. Tes enfants, ils vont inventer des trucs ou la vie va inventer des trucs.
Alors, oui et non.
Ok.
C'est-à-dire que moi, j'ai un peu ce concept de me dire, quand tu fais les choses bien, ça se passe bien. Mmh. Et donc, bon, effectivement, ça va avoir une limite. Mais par exemple, sur l'éducation, moi, je me suis vachement basé sur un livre de Laurence Pernoud, qui est un grand classique de l'éducation. Et c'est vrai que j'avais plutôt tendance à penser à la base que tout ça a été théorique et que la pratique derrière, elle est totalement différente. Et c'est vrai que des fois, tu lis des trucs, alors ça peut être des détails, mais ils disent, ben, ton enfant à 18 mois, il va adorer prendre un jouet à roulette qui tire avec un fil. Et ben finalement, ça se passe pas au jour près, mais vraiment en anticipant, en lisant à peu près dans le livre à chaque fois ce qui va se passer dans les 6 prochains mois, les conseils qu'ils peuvent mettre dans le livre, etc., eh ben, je trouve que finalement, tu t'arrives quand même à vachement anticiper ce qui se passe et la réalité de comment ça s'est passé est quand même très cohérente avec tout ce qui est décrit dans le livre.
Okay.
À mon avis, avec les années, tout ça se dilue dans la complexité des sortes.
Mais... Oui, un peu plus. Mais oui, je comprends.
Mais tu vois, j'ai finalement être confronté à un problème en ayant l'impression d'avoir mis le maximum d'énergie pour faire en sorte de le résoudre a priori, ça me gêne moins. Que de me dire, oh là là, on est dans une situation difficile, et finalement, je me suis pas assez documenté. Peut-être qu'on aurait pu, justement, investir un peu plus de temps en amont et ne pas se retrouver face à cette difficulté de crise, de pleurs. Mmh.
C'est pour ça que tu t'es retrouvé en thérapie? Ou t'as toujours été en thérapie?
J'ai toujours été en autothérapie. Je me suis toujours posé des questions. Mais le fait vraiment d'aller se faire aider, c'est récent. Et c'est plus finalement pour essayer d'avancer plus vite qu'avec un but de se dire d'arriver à un certain résultat. Après, ça, c'est...
D'avancer plus vite.
Comment dire ?
Oui, tu veux dire que l'autothérapie, c'est cool de se poser des questions, mais d'avoir une tierce personne qui, en plus, est un professionnel
ouais,
ou une professionnelle,
ouais,
c'est
et puis
cool.
Des fois, tu touches ta limite. C'est-à-dire que tu arrives à te poser des questions et puis tu as des questions qui s'appellent les unes les autres et tu te dis, en fait, là, je suis bloqué. Et d'avoir quelqu'un qui vient t'apporter des réponses, ça peut aider. Après, ce que me dit ma psy, c'est que c'est pas ça, la thérapie. Moi, je viens avec des questions comme je te décrivais tout à l'heure en disant, en fait, l'hypersensibilité, moi, je la sépare en trois catégories et je suis plutôt comme ça. Elle me dit, ah, mais il faut laisser tomber tout ça. Venez sans avoir préparé quelque chose, on va discuter de votre semaine et puis on va trouver des trucs, quoi.
T'as besoin de préparer.
Je sais pas si j'ai besoin, mais c'est comme ça que j'ai l'habitude de fonctionner. Donc après, justement, elle me disait... elle me disait, ça va prendre du temps à ce que vous arriviez sans avoir rien préparé. Et je lui dis, bon, vous pourriez être surprise.
Okay.
Je peux aimer le challenge.
Ok. T'as besoin de passer ça. Il y a un truc, tu vois, c'est marrant parce que tu parlais justement d'arrêter d'anticiper, de revenir dans l'instant présent, etc. Et moi, l'un des trucs que j'ai regretté, entre guillemets, c'est de ne pas avoir été en thérapie quand mes filles étaient vraiment en bas âge. Quoi. Tu vois, j'y suis rentré quand elles avaient déjà 8-10 ans, quoi, tu vois.
Oui.
Et l'un des trucs que j'ai compris, c'est que il n'y a rien de meilleur pour te remettre dans le moment présent qu'un bébé.
Ah,
parce
oui,
que le bébé, il est là, tu vois. Il est bébé, voilà. T'as juste besoin d'être là avec lui et d'être présent avec lui et de lui donner la main, de voir qui prend la main, tu vois, d'avoir ce truc où. Et je voudrais reparler de. J'ai bien compris que derrière l'idée de ce rendez-vous avec la pédiatre, là, que tu as eu il y a un mois, c'est ça ?
Oui, à peu près.
Début d'année. Il y avait un truc de fierté, de « ok, finalement, le môme, il a l'air d'être smart, etc. » Donc, une forme de projection, peut-être, peut-être que c'est finalement le fils de son papa. Mais est-ce que derrière ça, il n'y a pas eu aussi... Tu vois, tu m'as dit que tu n'étais pas allé jusque-là au rendez-vous... avec la pédiatre,
ouais,
avec
alors,
lui.
Ouais, ça c'est lié au fait d'avoir un autre enfant et à la charge, etc. Mais c'est vrai que quand tu veux vraiment quelque chose, tu t'organises pour. Ça avait été le cas avec ma fille. Pour autant, je travaillais déjà, etc. Et j'ai toujours réussi à trouver les moyens d'y aller. Dans ce que tu m'as dit là, il y a quelque chose qui m'a marqué quand tu disais peut-être que c'est bien le fils de son père. En fait, je pense que c'est pas ça qu'il y a derrière.
Okay.
C'est plus peut-être que c'est lui le projet complexe qui va t'occuper dans 10 ans. C'est plus cette peur là de se retrouver dans 10 ans à dire bah, en fait tout roule, tout va bien, tout le monde est parfait et en fait c'est plus à me dire ah ouais peut-être que c'est en lui que je vais trouver ce challenge futur que aujourd'hui j'ai le stress de peut-être ne pas avoir.
Ah ouais t'as pas
ouais, c'est ça quand
t'as pas envie
que quand je te dis bon que j'ai un rapport à la complexité en fait moi je quand c'est simple je m'ennuie et quand je m'ennuie ça m'intéresse pas.
Ok.
Ah ça ce qui est enfin ce qui ne veut pas dire que j'ai envie de me mettre dans des galères, chose que j'ai fait plutôt à l'adolescence, où finalement, justement, en termes de rapport aux émotions, il y a des fois, on va dire un peu volontairement, tu te mets dans une galère pour dire, tiens, qu'est-ce que ça fait de ressentir mais l'émotion de ton choix derrière. Et voilà.
Ok. Et donc tu te dis, peut-être que, je ne comprends pas, donc derrière l'idée de, ok, peut-être que mon fils, ça va être un projet complexe.
Oui.
C'est ça. Il y a quoi derrière, en fait ? Il y a une forme de challenge, c'est ça ?
Oui. Une forme de challenge, une forme de se dire, en fait, ça va demander de l'investissement, mais on va pouvoir en faire quelque chose de grand. Alors, pas forcément quelque chose de grand. Je veux pas mettre sur mes enfants mes propres envies, si jamais
tu deviendras Kylian Mbappé.
Oui, voilà, exactement. Et pour ça, les podcasts, ça aide justement à se rendre compte qu'on peut mettre une pression sur les enfants et qu'il faut y faire attention. Mais par contre, le fait de se dire peut-être que si c'est quelqu'un qui me ressemble dans son intellect, on pourra travailler sur ces questions de gestion des émotions assez tôt. Peut-être que c'est des choses qui lui parleront.
Que
ça, ça m'intéresse.
Que t'as pas eu, toi, en tant qu'enfant.
Ben je l'ai à l'âge adulte, finalement. Oui, enfin, les émotions, t'en parles à l'âge enfant. On m'en a parlé aussi, mais c'était pas là-dessus que je me concentrais. Et donc, c'est vrai qu'il y a ce côté-là de se dire, finalement, oui, s'il me ressemble, s'il se pose des questions un peu comme moi, ça peut être vachement intéressant, en fait. Je pourrais lui apporter beaucoup si jamais il y a ça. Alors que si jamais il est, différent de moi, et ben enfin, en fait, je me rends compte que mes mots là,
c'est intéressant, hein.
Encore une fois, on peut comprendre l'inverse de ce que j'ai en tête.
Ah bah vas-y, tu peux préciser.
En fait, quand je dis différent de moi, évidemment qu'il sera différent, mais c'est plus finalement si on s'entend pas, si on n'a pas les mêmes atomes crochus, si finalement lui tout ce qu'il aime c'est le foot, et puis que le foot, quoi, et ben ça va être moins stimulant pour moi.
Alors j'ai un super épisode pour toi, un mec qui s'appelle Fred.
Ouais, j'ai écouté.
T'as écouté?
J'ai écouté, ouais. Avec sa fille qui est en espoir.
Voilà. Ouais. Qui a 50 balais. Je mettrai le lien dans les notes, là. Tu vois, typiquement, j'ai trouvé que Fred, cet épisode, ce témoignage était incroyable, quoi.
Ouais.
Parce qu'il y a vraiment ce truc où il en a rien à foutre du foot, et donc il fait partie sans doute de ces rares mecs qui ont un enfant qui fait du foot, et sa fille en plus, qui est devenue, genre, à 6 ans, elle a dit moi je gagnerai la Coupe du Monde.
Ouais.
Et sa fille est un espoir du foot français, quoi, aujourd'hui. Et c'est marrant, l'investissement qu'il y a mis derrière, quoi.
Ouais, mais
ça t'a pas ouvert un peu le truc de te dire, de te détendre un peu, de ok, peut-être.
Ah mais si, en fait, si jamais mes enfants ont une passion, même quelque chose qui me passionne pas, je les accompagnerai avec plaisir. C'est plus, quand je parlais du foot, c'est plus si ce qu'il aime c'est juste aller faire un foot dehors avec les copains, mais que derrière il n'y a pas un projet professionnel, entre guillemets. S'il y a ça, moi je serais le plus heureux des papas à aller découvrir un autre monde. Et à l'accompagner là-dedans au mieux.
Okay.
Au contraire, justement. Là, en plus, dans le cas où c'est une fille plutôt dans un sport de mec, là, il y a de la complexité, là.
Je t'ai posé une question tout à l'heure, mais tu l'as un peu zappée.
Je t'écoute.
Enfin, tu l'as, je crois, peut-être consciemment ou pas consciemment mise de côté. En fait, je te disais, est-ce que t'aurais aimé, toi, quand t'étais plus petit, en tout cas, est-ce que ton objectif en tant que père, c'est d'offrir à tes enfants ce que t'as pas pu avoir, toi, en tant qu'enfant?
Je sais pas. Le rapport aux parents, c'est un sujet aussi que je travaille, mais en ayant...
Et à ta propre éducation, quand tu dis à
oui,
tes parents.
Oui, bien sûr. En ayant quand même en tête que j'estime avoir eu beaucoup de chance. J'ai des parents présents, logistiquement, émotionnellement, etc. Mais c'est vrai, j'ai lu un livre de psycho sur le sujet il n'y a pas longtemps, qui dit en gros que... même à l'âge adulte, on attend de nos parents ce qu'ils nous ont pas donné à l'âge enfant. Et en fait, ce qu'ils nous ont pas donné à l'âge enfant, pendant l'enfance, c'est qu'ils ne sont pas capables de nous le donner. Ils avaient pas les capacités. Et une fois que t'es adulte, ils les ont toujours pas. Et donc, il fallait faire le deuil de ses parents. En tout cas, le deuil de ces attentes-là. Et qu'il fallait justement, pour contenter l'enfant intérieur, être son propre parent. Créer un dialogue entre l'enfant en toi et l'adulte que tu es. Et donc, c'est assez intéressant comme façon de voir les choses.
Ça t'a parlé ?
Ça m'a parlé, oui, un petit peu. Un petit peu, mais c'est pas un choc psychologique comme j'imagine que ça peut faire à certaines personnes qui ont des relations compliquées avec leurs parents. Voilà, c'est plus de la curiosité intellectuelle finalement que de la thérapie à ce niveau-là.
Mais je crois que c'est d'autant plus difficile à... d'en prendre conscience quand t'as l'impression d'avoir des parents qui ont fait le job, entre guillemets.
Ah, mais tout le monde a cette impression quasiment.
Non.
Ah oui.
Il y a vraiment des parents qui sont extrêmement déficient et dont, à l'âge adulte, en fait, moi, je reçois des gens qui me disent mes parents, ils n'étaient pas là, quoi, tu vois.
Oui, mais justement, jeunes adultes, ces gens-là, ils sentaient que leurs parents étaient déficients. Dans le livre, c'est un peu le début aussi, ils disent c'est très très dur de reconnaître que ses parents n'ont pas fait ce qu'il fallait.
Ce que je veux dire, c'est que c'est d'autant plus dur quand t'as l'impression que tes parents ont fait le job, tu vois.
Ouais, je comprends.
Et quand t'as la sensation qu'ils ont été là, etc. Enfin, tu vois, par exemple, il y a des parents qui peuvent être là logistiquement, tu vois, et notamment souvent des pères qui sont incapables de dire je t'aime à leurs enfants parce que bah, eux-mêmes, sans doute, ils l'ont pas reçu de la part de leur propre père.
Ouais.
Et ça fait partie un peu des trucs qui peuvent manquer, tu vois. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, quand t'es en train de. T'es pas susceptible quand tu dis à ta mère, oh, fais-moi un bisou, quoi. J'en sais rien.
Oui, oui, j'entends.
Est-ce que, je sais pas si t'as écouté cet épisode avec Anne-Laure où on parlait de l'idée d'avoir un deuxième enfant et où elle racontait que au sein de son couple, c'était une vraie décision de pas faire de deuxième, notamment pour pas créer des différences entre tes deux enfants, en fait. Parce que, en fait, à partir du moment où il y a un deuxième, ils sont obligés de se positionner l'un par rapport à l'autre. Mmh. C'est pas encore le cas avec tes petits, tu vois, mais c'est un truc qui va très vite arriver, quoi. Enfin, si, ceci dit, ta fille est née sans doute. Et quand ton fils est arrivé, elle a été obligée de se positionner. Elle était là, waouh, ok, putain, je suis obligé de partager, wesh.
Alors, on a un peu le sujet en ce moment, mais finalement, ça n'a pas été un sujet pour le deuxième. C'est plus un sujet, mais on est encore très en amont, hein, le petit, il est encore.
Oui.
Mais des fois, on a le sujet de se dire, à la base, on en veut trois. Et là, c'est vrai qu'avec toute la charge que ça représente, etc., des fois, moi, je me pose la question de dire, bon, on est bien d'accord que on se stabilise avec deux, et trois, on verra plus tard. Mais du coup, entre un et deux, non, on n'a pas du tout eu ce sujet-là, parce que, je sais pas, on a toujours voulu trois, moi j'ai deux sœurs, on est trois, ma femme a deux sœurs, ils sont trois, et ça allait bien à tout le monde, et notre idéal, c'est trois.
Ok, d'accord. Et donc finalement, tu me disais que t'avais un peu avancé sur cette, on va dire, sur cette différence, en tout cas sur cette peur que tu peux avoir de différence depuis le mois d'octobre. C'est grâce à ce rendez-vous qui a été un peu un déclencheur pour toi, où tu t'es dit, putain, ouais, en fait, ça peut être simple.
Ouais, ça a vachement joué. Après, comme je te disais tout à l'heure, l'effet, il a été plutôt éphémère. Enfin, l'effet, en tout cas... à très court terme, le fait que je me dis tiens maintenant occupe-toi de la grande, je vais prendre le petit, faut lui changer la couche, allez c'est moi, là où naturellement j'ai plutôt tendance à faire l'inverse à quand on doit se répartir les enfants à privilégier de passer du temps avec la grande. Et mais par contre, bah, voilà, ça a enclenché tout un travail derrière de justement de prise de conscience de ces choses-là. Et en fait, quand je te dis que j'ai avancé, finalement, c'est plus que j'ai avancé sur de l'acceptation et de me dire mon rapport à la complexité aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de moi. Mais pour autant, avec un travail de lâcher prise, je peux me retrouver à mieux vivre la situation si jamais, comme on disait tout à l'heure, c'est bizarre de le dire comme ça, si tout va bien. Si tout est simple.
Mais c'est intéressant parce que, bon, on revient toujours à cette histoire de congé paternité, en fait, tu vois. C'est-à-dire que si tu t'étais retrouvé avec 6 mois obligatoires de congé paternité avec ton fils, tu t'aurais été, entre guillemets, obligé d'en prendre soin, tout comme... Et quand je dis prendre soin, ça veut pas dire que tu t'en fous, tu vois, mais je parle vraiment du care, tu vois, de changer les couches, d'aller au rendez-vous chez le pédiatre, etc. Chose que t'as fait avec ta fille. Ouais. Et en fait, ça vient aussi de là.
Que je fais aussi avec mon fils, mais
tu le fais moins spontanément que t'avais pu le faire avec ta fille.
Je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, pour ma fille, c'était encore le congé paternité plus court, les 11 jours, etc. Et ça tombait au moment des fêtes, donc globalement j'avais fait en sorte de poser un mois de suite.
Okay.
Alors que pour mon fils les règles avaient changé, c'est un mois et c'est vachement bien, quoi. Alors à la limite, moi même sans ça, j'avais déjà posé un mois parce que je sentais que c'était une période importante pour tout un tas de choses, pour le lien avec les enfants mais aussi pour le soutien de son conjoint. Et autant, bah, pour mon fils, la question se posait même pas, quoi. Tu, là, on te donne la possibilité de le faire pendant, pendant un mois, ce qui est super. Et le fait que ça soit potentiellement plus long, enfin, pour tout un tas de raisons, moi, j'y serais favorable.
Mais t'étais en congé paternité en même temps que ta femme, de fait.
Oui.
Tu vois, pour moi, le vrai gap, c'est de le faire à la Scandinave, tu vois, c'est-à-dire vous répartissez. Et en fait, toi, en tant que daron, tu te retrouves tout seul à devoir gérer les petits, quoi.
Ouais, c'est un sujet qu'on a un peu abordé parce que on s'est posé la question de faire un 80% par intermittence, par alternance avec, avec ma conjointe.
Quand tu dis par alternance,
c'est... C'est-à-dire une année sur deux. Une année sur deux, c'est on prend les mercredis parce qu'il n'y a pas l'école le mercredi. Et une année sur deux, ça serait elle. Une année sur deux, ça serait moi.
Okay.
Et on avait, on pensait amorcer la pompe avec moi. Justement, le fait que je prenne, je me mette à 80% et que je m'occupe des enfants le mercredi. Et finalement, on a fait différemment. Cette année, c'est elle qui a 80%. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a école le mercredi matin.
Ok.
En fait, moi, je m'imaginais le truc quand même. Bah, c'est cool. Le mercredi, c'est la journée avec ma fille. On avait convenu de mettre quand même le petit à la crèche le mercredi, parce que sinon, c'est une journée particulièrement éprouvante. Mmh. Et je me disais, bah, c'est bien. On va prévoir des activités. On va aller à la piscine, au cinéma, à la bibliothèque, etc. Et quand on a fait l'inscription à l'école et qu'on a vu qu'il y avait école le mercredi matin, eh ben, finalement, le mercredi, c'est plus la même journée, quoi. Tu récupères ton enfant à midi. Tu le fais manger et tu le couches et puis tu fais pas grand chose. Donc l'intérêt que moi j'avais pour ces mercredis a diminué.
Y a pas assez de choses complexes à faire.
Et ma femme s'était vraiment mis en tête que les mercredis il y aurait l'un de nous deux. Et donc quand j'ai commencé à dire que bah moi les mercredis ça allait moins m'intéresser, bah finalement elle a pris les devants de se mettre à 80% pour avoir les mercredis. Mais la question se pose là pour l'année prochaine, comment on fait, etc. Sachant qu'il y a, il y a d'autres implications professionnelles en termes de
financière, c'est ça, de salaire.
Ouais, financière. En fait, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir faire de l'enseignement sur mon temps de travail, ce qui m'apporte du coup là, en termes de complexité, en termes de finance un petit peu, mais c'est pas le plus important. Et en fait, tu peux pas faire ça si t'es à temps partiel. Chose que j'ai découvert aussi après. Donc voilà, quand on met tout ça dans la balance, ça fait qu'aujourd'hui, je suis plutôt réticent. Plutôt à dire, sinon on s'organise, j'ai pas mal de congés, donc une année sur deux, j'en pose moins et je les répercute sur l'année d'après pour faire un à peu près l'équivalent. Mais voilà.
Ok.
Et donc, tu vois, dans l'équilibre de notre foyer, le fait de se dire, bah, des fois, ça peut être le père qui fait un compromis sur, bah, entre guillemets, sa carrière, ses finances, etc., pour passer plus de temps à s'occuper des enfants. Moi, j'y suis tout à fait prêt. Ouais.
Ok. Mais s'il y a, tu disais, s'il y a genre une journée complète, quoi, il faut que ce soit. Et pas de jugement, hein, parce que je suis là-dedans aussi. C'est-à-dire que pendant très longtemps, je me suis rendu compte, et même encore là, très récemment, j'ai pris une claque dans la gueule, où il y avait un truc de « Ok, je veux bien faire un effort, mais si c'est à mes conditions, quoi. »
Ben oui, oui. Non, mais oui, j'entends bien ce que tu dis quand tu disais.
Tu vois, je te juge pas du tout. Hein, c'est juste, putain, c'est un vrai truc compliqué en tant que père.
Mais derrière ça, il y a quelque chose d'égoïste. Mais en même temps, je vois bien qu'il faut que j'ai mon équilibre pour réussir à durer et à donner le meilleur de moi-même aussi pour les autres. Mmh. Et donc, le fait de se dire, bah, effectivement, ça, je sais que ça serait une situation qui m'irait pas. Et ben. Bah, fonçons dedans et puis on verra bien, mais pour les autres c'est le mieux à très court terme, mais finalement moi c'est pas comme ça que je fonctionne.
Ouais.
Et le fait de se dire oui, tu vois quand on parle de potentiellement 6 mois de congé paternité où tu t'occupes tout seul des enfants, etc., et ben t'as des gens pour qui c'est pas possible, enfin qui chez qui ça va déclencher trop d'énervement, etc. Et ben est-ce que c'est souhaitable?
Alors, je suis convaincu que si t'étais obligé, toi, avec la façon dont tu fonctionnes, c'est-à-dire que si t'avais pas le choix, tu vois, tout comme sociétalement, bah, aujourd'hui, le problème, c'est que sociétalement, jamais on se dit que c'est un truc qu'on est obligé de faire.
Oui.
Scandinavie, en fait, ça fait partie du truc. C'est-à-dire que tu as un enfant, tu vas avoir 3 mois. En gros, tu as 6 mois de congé. Il faut que tu les répartisses à temps égal entre l'homme et la, enfin, le papa et la maman.
Okay.
Donc, si tu avais 3 mois où tu étais obligé, entre guillemets, de t'occuper de ton enfant à plein temps, je suis à peu près sûr que tu t'organiserais, tu mettrais en place un tableau Excel, etc. Et surtout, l'un des trucs qu'on oublie, mais je te renverrai vers l'épisode avec Tristan qui parle de ça, Tristan Champion, qui raconte son congé paternité en Norvège, je crois, et qui raconte qu'en fait il s'est retrouvé à la crèche qu'avec des darons. En plus, il dit ils font tous 2 mètres, ils ont tous des gueules de bûcherons et tout. Il y a un vrai truc où lui, ça matchait pas au départ en termes de ok, la virilité, c'est pas normalement de se retrouver à changer des couches, quoi. Tu vois, ça l'avait complètement mindfuck à l'époque. Et en fait, tu te retrouves dans des groupes de darons avec des poussettes. Aller te balader, tout comme tu peux avoir des groupes de mamans, tu vois, en France, je sais pas, qui font des activités ensemble et tout, mais juste, on se projette pas, nous, en tant qu'hommes.
Oui, j'entends. Mais ça rejoint un peu la façon dont je pensais les choses, c'est-à-dire que aujourd'hui, le fait d'être un peu l'original à être ouvert sur ce genre de questions, ce qui est le cas en France, hein, quand tu discutes autour de toi, des pères qui vont dire je suis ingénieur et j'accepte de me mettre à 80% pour m'occuper plus de mes enfants, c'est plutôt une exception.
Rappelons qu'en plus tu vis à Dijon,
oui,
c'est-à-dire que t'es pas à Paris où il peut y avoir une micro-bulle, tu vois, parisienne un peu plus en avance, mais c'est juste un peu plus ouverte sur ces questions-là, quoi.
Ouais. Et donc,
t'es un peu l'exception, quoi.
Oui.
Dans ta bande de potes.
Une des exceptions, on va dire. Je suis déjà l'exception dans ma bande de potes à avoir des enfants.
Ah ouais?
Ouais.
Ok.
Et donc, effectivement, si sociétalement les choses sont différentes, en fait, ça t'apporte autre chose. Et donc, quand je disais, je pense que tout le monde n'y est pas prêt, justement, je me considère plutôt entre guillemets en avance sur le sujet, donc j'y suis prêt. Mais par contre, s'il n'y a pas cette évolution des mœurs, finalement, il y a beaucoup de gens qui auraient beaucoup de mal à le mettre en place. Hein.
Oui, c'est sûr. C'est un tout, quoi.
Ouais.
Mais je sais, tu vois, c'est l'œuf ou la poule. C'est-à-dire que pour moi, à partir du moment où tu rends le congé obligatoire, en fait, la société va s'organiser autour. C'est obligé. Mais après, ça se fait pas dans l'autre sens, quoi. Tu vois.
C'est sûr que pour le rapport au travail de la mère, etc., ça aurait tout un tas de bénéfices pour les questions de discrimination à l'embauche, etc. Et c'est sûr.
Ah oui, parce que de toute façon, en fait, les mecs seraient à la même enseigne. Donc, ça serait obligé.
Et puis, en termes de gestion des difficultés des enfants, et le fait de, un peu comme tu disais, on peut avoir tendance à pas établir le lien dès le début et puis à fuir un petit peu. C'est vrai que je suis surtout ça par le prisme logistique, etc., mais aussi la charge émotionnelle que tu peux avoir. Aujourd'hui, c'est vrai que quand toi tu reprends le travail, que ta femme elle reste à la maison encore pendant quelques mois, etc., t'es pas confronté au même challenge et en termes de compréhension de ce qui se passe psychologiquement du côté de ta compagne, ça aurait beaucoup d'intérêt.
C'est sûr. D'intérêt. Un peu de vécu commun, c'est cool. C'est l'heure de la dernière question que j'imagine tu as préparée.
Je ne sais même pas laquelle c'est.
Si tes enfants écoutent ce podcast dans 10 ans,
ah oui.
Qu'est-ce que tu as envie de leur dire?
Ah oui. En fait, j'y ai réfléchi, mais j'ai rien qui m'est venu.
Ah ouais?
Ouais, je me suis dit, alors soit un truc très classique, quoi qu'ils fassent, je serai fier d'eux et j'espère que je les accompagne. C'est le truc qui me vient, mais j'aurais préféré avoir quelque chose de plus original à dire.
Non, mais t'es pas obligé d'avoir un truc original, mais juste authentique, quoi. Tu vois, qu'est-ce que t'as envie de leur dire là? Parce que j'ai l'impression que quand tu dis ça, c'est un peu bon, bah ok, c'est un peu la réponse.
C'est un peu la réponse bateau. En fait, je mettrais peut-être un peu de la nuance dans tout ce qu'on a évoqué là, c'est-à-dire. Ce que ça, s'ils l'écoutent dans 10 ans, ça peut être un peu de pression le fait de dire je suis à la recherche que mes enfants m'apportent un challenge futur, etc. Et j'aimerais pas que les choses soient simples. Finalement, tout ça est à nuancer. Et ce que j'espère le plus, c'est que tout se passe bien et que les challenges qu'on se pose les uns les autres sont à la hauteur des capacités des uns des autres et qu'on s'en sort comme ça.
Et puis le daron que tu seras dans 10 ans n'est pas le daron que t'es aujourd'hui, tu vois. C'est ça aussi, je crois, qui est dur de se projeter. Tu vas te retrouver, tu vois, tu seras le parent de petits ados, quoi, tu vois.
Oui, c'est sûr. Puis on verra la taille de la digue dans 10 ans.
Good job. Merci beaucoup, Étienne.
Merci à toi.
À plus.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.